Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité de Capi Service.
Certains élèves du primaire ont obtenu des mauvaises notes scolaires à la fin du deuxième trimestre. Pour les experts, il y a moyen de bien les encadrer pour améliorer leur performance scolaire au prochain trimestre. Alors, quelles sont les raisons qui peuvent être à la base des mauvaises notes scolaires et comment aider votre enfant qui n'a pas bien travaillé à s'améliorer lors du prochain trimestre? Otto Michel, vous êtes expert consultant en éducation et coordonnateur de l'Agence pour la promotion de l'enseignement. Bonjour.
Bonjour, Jeudi Kajama.
Alors, quelles sont les raisons qui peuvent amener un élève à mal travailler, à obtenir de mauvaises notes?
Un très bon sujet qui tombe à point de main parce que nous sommes à la fin d'un trimestre, pratiquement. La proclamation doit avoir eu lieu le samedi dernier sur toute l'étendue de la République de Moté du Congo.
Avant que les enfants aillent en vacances.
En congé de Pâques. Oui, parce que les examens ont eu lieu et la proclamation avait été prévue sur le calendrier scolaire le samedi dernier. Donc, il n'est que normal qu'un tel sujet soit placé en ce moment ici. Au fait, les échecs, il y en a eu, les succès, il y en a eu aussi. Alors, pour le cas ici, nous parlons des cas de mauvaises notes scolaires obtenues par les élèves. Moi, en tant qu'APE, on voudrait d'abord se poser la question, mauvaises notes scolaires. D'abord, ça vient d'où? Parce que les causes de mauvaises notes, si nous voulons réellement attaquer le mal pour l'éradiquer définitivement, nous devons en connaître les causes. Et les causes ici, moi j'estime qu'on peut les attribuer aussi bien à l'enseignant, à l'enfant lui-même et aux parents, sans sous-estimer les conditions environnementales bien sûr. Mais généralement lorsque nous disons des mauvaises notes, et nous parents, et nous enseignants, et nous autorités, dans la plupart des cas, sans trop de problèmes, on s'attaque généralement à l'enfant. Très peu de cas, nous enseignants se posent la question, qu'est-ce que je fais pour que cet enfant échoue? Ou bien, qu'est-ce que j'aurais dû faire pour que l'enfant réussisse ce que je n'ai pas pu faire? Ce sont des questions qui devaient être posées, mais que l'on se pose très, très, très rarement. Alors moi ici, pour répondre à cette préoccupation dessus des mauvaises notes scolaires, je voudrais beaucoup plus aborder notre part, nous. Quand je parle notre part, c'est nous en tant qu'enseignants. Voilà. Et notre part, c'est quoi? Lorsque je suis enseignant, je constate que mon élève échoue. Parce que l'échec, je l'ai toujours dit, c'est un droit, l'enfant peut échouer. Mais quelle est ma part en tant qu'enseignant? Est-ce que j'ai donné des matières comme prévu? Est-ce que j'ai utilisé des matériels didactiques tels que prévu? Est-ce que j'ai tenu compte de l'âge mental de mes élèves? Est-ce que les conditions environnementales m'ont permis de faire tout cela? Est-ce que mes élèves sont assis dans des conditions acceptables? C'est tout ça des choses qui peuvent faire que l'enfant, qui idéalement devait avoir de bonnes notes, ne les ait pas au finish.
Voilà. Et certains disent que lorsque un enseignant se retrouve dans une classe pléthorique devant beaucoup d'élèves, parfois il a du mal à suivre chaque élève pour s'assurer s'il s'améliore ou pas.
Mais la classe pléthorique, quelle est la part de l'enfant dans tout ça? Les pauvres, il n'est que victime. La classe pléthorique, c'est l'affaire de l'école, donc de l'enseignant, parce que le directeur qui inscrit les enfants, c'est un enseignant aussi. Donc c'est lorsqu'on foule au pied les instructions officielles qui limitent un plafond donné pour une classe, normalement, l'enfant n'est que victime et c'est nous qui sommes les bourreaux. C'est comme ça que nous devons réfléchir, voir un peu, petit à petit, qu'est-ce qui est à la base de cela. C'est vrai, je suis d'accord avec vous que les effectifs posent problème parce que il devient très difficile pour individualiser son enseignement, pour suivre enfant pas à pas ou chacun de façon particulière. Ça devient un problème. À cela, il faut ajouter les conditions matérielles d'apprentissage. Un enfant qui apprend dans une classe mal aéré, mal éclairé, un tableau à peine de telle dimension, une classe qui n'a pas de craie suffisante, une classe qui n'a même pas de craie de couleur, une classe qui n'a pas de matériel didactique, une classe qui n'a pas de livre malgré qu'on a distribué des livres à tous les élèves, mais qui ne sont que des monuments pour l'ornement du bureau. Tout ça, c'est des problèmes.
Voilà, parfois, c'est l'enfant qui est faible. L'enseignant a constaté que l'enfant est faible dans telle matière. Et souvent, on demande aux parents de venir signer le
bulletin.
Le bulletin, ouais. Et les parents ont l'occasion de parcourir la fiche, bulletin pour voir l'évolution de l'enfant. Mm-hmm. Et on constate que, par exemple, dans telle ou telle autre matière, il a fait des cotes, des notes, il a obtenu des notes pas très, très intéressantes. Alors, à ce moment-là, la faute revient à qui? À l'enfant, aux parents, qui n'a pas trouvé de répétiteur, ou c'est à l'enseignant?
Non, déjà à l'école primaire, on dit le répétiteur, oui, c'est très bien, mais c'est un recours qui vient par la suite. Normalement, la pédagogie nous dit ceci. À l'école primaire, la compréhension et l'assimilation des matières se font en classe. Normalement, de façon idéale, l'enfant n'a pas besoin d'un répétiteur à la maison. Idéalement, je dis idéalement. Mmh. Mais comme tous ne sont pas les mêmes, il y a quand même certaines particularités. Un enfant qui est extrêmement faible par rapport à son niveau, on peut peut-être penser à un répétiteur. Mais sinon, cet enfant qui ne réussit pas, quelle est ma part, moi, en tant qu'enseignant? C'est aussi ça.
Qu'est-ce que l'enseignant devait faire quand il constate que l'enfant a des faiblesses dans telle ou telle autre matière?
Je propose. Généralement, lorsqu'on fait des examens ou des interrogations, nous, au niveau de l'Agence pour la promotion de l'enseignement, nous proposons ce qui suit. Que l'enseignant fasse une étude scientifique des questions posées, des examens posés. Il doit avoir une colonne qui reprend les questions posées. L'autre colonne au-dessus qui reprend, par exemple, la numérotation des questions avec les noms de chaque élève. Comme ça, on va analyser question par question. À telle question, quel élève a réussi et quel élève n'a pas réussi? À la fin, on vérifie s'il y avait 10 questions dans tel domaine. À combien de questions la majorité d'élèves a réussi? À quelle question la majorité d'élèves n'a pas réussi? Et lorsque l'enseignant constate que à une question X, beaucoup d'élèves ont échoué, il doit se poser des questions. Mais qu'est-ce qui fait que moi j'enseigne cette matière, mais beaucoup d'élèves ont échoué à cette matière-là? C'est que le problème revient à moi enseignant, quitte à lui. C'est ce qu'on appelle la rémédiation. L'enseignant doit remédier en rectifiant les tirs. Ça peut être quoi? En réajustant les méthodes d'enseignement. S'il était passif, qu'il devienne actif et participatif. S'il n'avait pas de matériel didactique, qu'il en crée ou qu'il en donne l'occasion aux élèves de le faire. S'il était trop théorique, qu'il passe de la théorie à la pratique. Tout ça fait que l'enfant pourra améliorer ses cotes. Parce que l'enfant lui-même, il n'est pas très conscient qu'il a échoué, qu'il a réussi, hein.
Il n'est pas conscient.
Non, il n'est pas très, très conscient. Un enfant de première année primaire, qu'est-ce qu'il a à voir avec son échec? Pratiquement rien.
Oui.
Donc, c'est l'enseignant, parce qu'on dit, nous sommes dans un système d'enseignement collectif. Ça veut dire que l'enseignant est coté aussi par rapport à quoi? Au nombre des réussites. L'enseignant ne peut pas se bomber le torse pour se dire, ah, il y a eu beaucoup d'échecs. Je suis un bon enseignant. C'est triste.
Oui, c'est triste. José Kalala nous appelle de Kananga. Bonjour, José.
Bonjour, aujourd'hui. Bonjour à notre invité.
Quelle est votre question?
Bon, premièrement, permettez-moi que je commence avec ce que notre invité a dit, a soulevé, par rapport au nombre d'élèves dans chaque classe. Vous trouverez que, jadis, il y avait le nombre d'élèves dans chaque classe ne dépassait pas 45 ou bien 50. Mais vous trouverez que actuellement, il y a même un nombre exagéré dans chaque salle de classe. On trouve soit 60 ou 70 élèves dans une salle de classe. Et puis, l'enseignant n'a pas la maîtrise pour dispenser vraiment les cours aux enfants. Ça, c'est un. Le deux, c'est par rapport à la formation. C'est tout ce que notre invité est en train de dire. C'est tout à fait logique et normal. Le plus grand problème qu'il a est que les enseignants n'ont pas de formation. Moi, je demanderais qu'avant que l'année scolaire ait lieu, qu'on fasse d'abord la formation de tous les enseignants, afin qu'on leur montre tout ce que notre invité a dit. Moi, maintenant, la troisième, c'est une question que je pose à notre invité. J'ai une fille. Elle est en deuxième année. Elle étudie Saint-Ville. Maintenant, il y a un problème de timidité. Elle est vraiment
en deuxième
timide.
Primaire?
En deuxième primaire, bien sûr.
Est-ce qu'elle a bien travaillé pour ce trimestre?
Par rapport au deuxième... Elle n'a pas bien travaillé parce qu'elle a réussi avec 51% qui ne me plaisent vraiment pas. Oui. Maintenant, elle est vraiment timide. Moi aussi, je n'ai pas le temps. Tout le temps aussi, j'étudie, je suis aussi étudiant. Sa maman aussi effectue certains marchés afin qu'on se ravitaille ça et là. Donc, on n'a pas vraiment efficacement le temps de l'encadrer à la maison. Quand elle est avec ses élèves ou bien ses amis, elle parle bien français. Et à des fois, elle leur donne encore les cours qu'on a vu pendant qu'ils étaient encore à l'école, tout ça. Maintenant, si nous revenons, si on lui a donné, par exemple, un devoir de faire, si nous revenons, nous lui montrons comment on peut faire les devoirs, nous lui posons des questions, elle ne répond pas. Elle a une timidité. Je ne sais pas à quel degré je peux dire. Maintenant, quel conseil que notre invité peut me donner afin que ma fille puisse se remédier, afin qu'elle puisse faire beaucoup de pourcentages.
D'accord, merci. Apollinaire, vous êtes à Colézy. Bonjour.
Bonjour, M. Jody Daniel Kachama.
Quelle est votre question?
J'ai un petit frère. Bon, quand il était à l'école primaire, il s'appliquait vraiment très très bien. Il présentait aux parents toujours de bons résultats. Mais maintenant, quand il a commencé l'école secondaire, ce rythme-là de l'école primaire, il a même échoué à la première semestre. Mais maintenant, comment expliquer cet effet? Et même pas comprendre. Et ma question est celle de savoir qu'est-ce que les parents peuvent faire pour aider les petits? Merci.
D'accord. Lorsqu'il était au niveau du primaire, il faisait des bons points au secondaire et il fait plus des meilleures cotes. Qu'est-ce que les parents peuvent faire par rapport à cela? Voilà. Otto Michel.
Merci beaucoup. Je vais commencer par la question de notre frère José Kalala depuis Kananga. En fait, je vais aller lentement pour que et les parents et les enseignants nous suivent, parce que c'est aussi une émission très pédagogique. Normalement, pour que nous ayons des enfants qui travaillent bien, nous, en tant qu'enseignants, en tant que parents, la première tâche qui nous incombe, c'est celle de connaître ces enfants. Comment est-ce qu'ils réagissent? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces enfants nous comprennent? Il se fait que chaque enfant est une unité particulière et individuelle. Elle est une spécificité unique à elle-même. Il y a des enfants qui, pour comprendre ce que l'enseignant dit, il faudrait que l'enseignant se rapproche de l'enfant, le touche ou le tienne, même par exemple sur le dos.
Là, ça le rassure.
Ça le rassure et il comprend des choses. Il y a des enfants comme ça. Lorsque l'enseignant ne le touche pas, il ne comprend rien. Il y a de ces enfants qui, pour comprendre une matière, il faudrait que le matériel didactique que l'enseignant présente soit auditif. C'est-à-dire qu'il entend la voix de l'enseignant, il voit le matériel, il comprend. Il y a d'autres, par contre, qui, pour comprendre la chose, ils doivent goûter et sentir. Maintenant, toutes ces réalités qui sont vécues dans nos classes, dites-moi, chers enseignants, chers parents, combien de nos classes ont des matériels gustatifs, olfactifs, tactiles? La plupart de nos classes, nous pensons que tous les enfants sont auditifs et visuels. Parce que l'enseignant, qu'est-ce qu'il fait? Il parle avec sa bouche, ce qui touche l'audition de l'enfant.
Il écrit au tableau, et les enfants voient.
Voilà, et il fait des gestes, et l'enfant voit. Nous nous limitons juste aux enfants audiovisuels. Alors que tous ne sont pas au début. Il y a des enfants qui sont tactiles, il y a des ceux qui sont olfactifs, il y a tout ça. Tout ça fait que lorsque la classe ne réunit pas toutes ces conditions, ça pose problème de compréhension de l'enfant.
Je reviens à vous tout à l'heure, le temps d'accueillir Madame Joséphine qui nous appelle depuis Boston aux États-Unis. Madame Joséphine, bonjour et quelle est votre question?
Bonjour Radio Capi, merci de m'avoir passé la parole. Ma question est celle-ci. Moi, je crois que je vais prendre l'exemple de la première partie des Radio Services pour poser ma question. Vous savez, quand nous prenons, pourquoi l'enfant échoue? Prenons seulement l'exemple de unité de mesure qu'on enseigne à l'école primaire. Vous partez de, par exemple, de kilogrammes, grammes, milligrammes. L'enfant étudie ça à l'école, il a une réalité autre par rapport à quand on l'envoie au marché, il va trouver les sacombi. Moi, je crois que l'enfant a une confusion. On a amené dans l'enfant la confusion entre ce que l'enfant vit dans sa vie normale et ce que l'enfant étudie à l'école. Et sur aussi, je vais amener un problème de l'enseignement lui-même. L'enseignement, partout là où je suis passée, et surtout là où je suis ici aux États-Unis, l'enseignement, on voit les mamans, on voit les dames. Ce sont des enseignantes, c'est 80-90% à l'école. Vous pouvez prendre un exemple. Le papa, quand le papa est là à la maison, le papa, le genre de papa, c'est, il n'est pas tendre, il ne sait pas prendre son temps pour donner à l'enfant. C'est pour cela qu'il y a beaucoup d'enseignantes ici et vous voyez que la maman a le temps de prendre son temps pour expliquer à l'enfant la matière. Pas sa tendance d'être tendre. Alors au Congo, c'est un peu difficile, tu vois, à l'école. Comme moi, à l'école primaire, j'ai seulement des enseignants. C'était très frustré. Donc, l'enfant n'est pas vraiment à l'aise. Et puis, l'enseignement congolais, en ensemble, c'est imposant. L'enseignement est imposant. Dans quel sens? L'enseignant veut que l'enfant produise ce que lui a dit à l'école. Ce qui n'est pas bien. Par exemple, l'enseignant vient dans la salle de classe, il demande à l'enfant, il dessine, par exemple, quelque chose, le lion, ou bien un carré, et puis dit à l'enfant que ça, c'est le carré. Au lieu de demander à l'enfant s'il connaît le carré, s'il a déjà vu le lion. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? C'est comme l'invité a dit, ce qu'il faut faire, l'enseignement, ce n'est pas un problème seulement de l'école. Ce n'est pas un problème de l'enseignant ou l'enseignante. L'enseignement, l'éducation de l'enfant, ça part par la famille. C'est à la maison où commence le vrai enseignement. Papa et maman, si l'enfant a les frères et les sœurs, tout concourt à sa réussite, la réussite de l'enfant. Tout le monde doit concourir, même dans le quartier. Quand on donne un devoir à l'école, l'enfant peut demander à sa mère, son père. Quand eux ne savent pas, l'enfant peut aller même chez les voisins. C'est comme ça qu'on éduque un enfant. Mais il faut faire très attention, comme j'avais dit au Congo, on a détourné la réalité. Dès l'enfance, on détourne la réalité de l'enfant. Alors c'est difficile que l'enfant comprenne ce qui se passe.
Merci Madame Merci Joséphine beaucoup. Depuis Boston. Clémanda, vous êtes à Kananga, bonjour.
Bonjour Monsieur le journaliste, bonjour aussi à l'invité du jour.
Quelle est votre question Clément?
Je voudrais juste demander à l'invité, selon mes remarques, j'ai un grand frère qui est ici à Chimbulu, et puis il avait deux enfants. Mais au lieu d'inscrire directement les enfants, au degré primaire, il a voulu les mettre vraiment au complexe. Mais juste auparavant...
Parlez un peu plus fort.
Oui, les enfants là pouvaient s'exprimer bien. Ils pouvaient parler certains termes en français. Par exemple, la table, que ce soit en français, en chulouba, le palmier, la maison, des histoires pareilles. Dans un certain moment, une fois que les enfants ont suivi vraiment les degrés primaires, j'ai vite compris qu'arrivé en cinquième, l'enfant qui est parvenu même à manquer comment lire. Vous écrivez même son nom, vous lui parlez de lire ce nom-là, il n'arrive pas à lire. Et parfois, il manque comment mettre. Vraiment écrire même son nom. la maîtrise d'alphabet, il n'arrive même pas à maîtriser l'alphabet. Alors dans ce cadre, j'aimerais que l'invité puisse vraiment m'aider, de quelle façon nous pouvons faire à ce que les enfants de mon grand frère là parviennent à lire, parviennent à écrire eux-mêmes. C'est ça la première des questions. Alors la deuxième des questions, c'est que je viens de remarquer, il y a un enseignant qu'on a placé en cinquième primaire. Mais à ma grande surprise, j'ai vu que l'enseignant là, c'est vraiment une enseignante. Il manque même de quelle façon définir le participe passé. Et d'une part, en ce qui concerne la définition de la phrase, il n'arrive même pas à définir une phrase. Qu'est-ce qu'on peut normalement faire? Et normalement, cette enseignante-là, comment elle peut aider les enfants de s'en sortir? Puisque normalement, l'école primaire doit être la base. C'est où on acquiert une bonne formation qui peut nous permettre à ce que nous puissions vraiment nous en sortir même au niveau humanitaire, soit à l'université. Mais si normalement une enseignante pareille forme par exemple plus de 3 ans, plus de 2 ans, voire même plus des enfants pareils, est-ce que normalement ça peut être des enfants qui peuvent normalement contribuer à une société ou c'est une façon de l'éducation? Comment aider cette enseignante-là de bien enseigner pour que nous puissions avoir de bons citoyens, soit de bonnes citoyennes au jour de l'avenir? Voilà mes petits.
Merci Clément. Merci beaucoup. Autant Michel, vous avez la parole.
Merci beaucoup. Avant d'arriver à Clément et à Madame Joséphine, je continue avec. On avait fini avec José de Kananga. Avant de terminer avec José, il fallait l'aider à récupérer son enfant qui était assez timide. Qu'est-ce qu'il fallait faire pour que l'enfant timide?
Oui, l'enfant est très timide.
Oui. Et là, la timidité peut être combattue au niveau de l'école primaire. Le programme national a prévu des matières qui permettent de combattre avec beaucoup de fruits, avec beaucoup de résultats, la timidité des enfants au niveau du primaire. C'est notamment le parler en public, en termes de récitation, les activités qui sont organisées à la fin d'un trimestre, à la fin d'une année scolaire. Les enfants peuvent déclamer des poèmes, peuvent chanter en public, peuvent danser en public. C'est pas une mauvaise chose, ça apporte, ça combat la timidité. Et donc, notre cher José Kalala, pas trop de peur. La timidité, oui, ça peut arriver, mais on peut la combattre.
Tu dois parler avec l'enseignant de l'enfant pour...
Naturellement, oui, parce que...
Pousser l'enfant à faire des récitations devant la classe.
Devant la classe. Mais aussi à la maison, on peut demander à cet enfant de jouer avec ses amis. C'est permis, ça peut toujours aider.
Mais il y a des enfants à la maison, et il est très ouvert à arriver à l'école, l'enfant devient timide.
Mais c'est ma faute en tant qu'enseignant, parce que si l'enfant trouve qu'il est devant un bourreau, devant un enseignant qui a chaque fois un fouet devant lui, entre ses mains, l'enfant aura toujours du mal à pouvoir s'exprimer clairement avec beaucoup d'aisance parce que l'enseignant est un bourreau pour lui.
Et monsieur José n'est pas content, son enfant a fait 51%.
C'est normal. C'est normal parce que si une classe a 10 élèves, il y aura toujours un premier et toujours un dernier. On ne peut jamais avoir une classe de 10 enfants où tous seront premiers. Parce que chaque enfant est unique à lui-même. Oui, mais les efforts, je le comprends en tant que parent, c'est tout à fait normal et logique.
Aucun parent ne peut être content en diffusant des résultats.
Bien sûr. Si on n'est pas content, mais l'enfant est comme ça. Il est comme ça maintenant. Il faudrait que et nous parents, et nous enseignants, qu'on se tient la main dans la main, que l'on s'explique des choses telles que ça se passe, pour que les uns et les autres se comprennent et on aura moins de problèmes dans notre société scolaire.
Apollinaire a son jeune frère qui était bien, qui travaillait bien quand il était au niveau primaire, arrivé en secondaire.
Ça marche plus.
Ça marche plus. Qu'est-ce qu'il peut faire pour... D'abord, aider cet enfant à améliorer?
Je voudrais... j'ai bien suivi notre frère Apollinaire depuis Colosi. À lui et à tous ceux qui nous suivent, je voudrais faire une part des choses. Le parler français ne signifie pas la maîtrise de la matière. Le parler français ne signifie pas être intelligent. Le français, c'est comme le Lingala, c'est comme le Swahili, c'est une langue comme toute autre. Ne confondons pas des choses. Parce qu'il dit, cet enfant parle bien français, mais il a du... Mais non, parler français ne signifie pas savoir lire et écrire. Ce sont deux choses différentes. Pas de confusion, s'il vous plaît. Alors, pour aider notre ami Apollinaire de Colosi, pour que son enfant puisse se perfectionner, je pense que cet enfant devient, on doit le placer dans un cadre pour une récupération. Parce qu'il est déjà au secondaire. Il sait pas
peut-être
lire.
Peut-être il devient négligent, il va se promener, il fait l'école buissonnière.
Ça vient
il est
d'où?
Tout le temps distrait avec Facebook, sur Facebook, avec ses amis.
Ça vient de tout ça. Ça vient d'où tout ça? Pourquoi l'enfant fait l'école buissonnière? Tout simplement parce que nous, enseignants, nous ne rendons pas nos enseignements intéressants. C'est ça. L'enseignant vient à l'école, il n'y a que lui qui parle. Vous avez compris le caracat côté égo? Vous avez compris? Oui, monsieur. Est-ce que... Non. Au fait, l'enfant n'a pas le temps de réfléchir, comme disait Madame Joséphine depuis Boston. Mmh. L'enfant, on ne donne pas à l'enfant l'occasion de réfléchir, d'apporter du sien. Au fait, l'enfant est pris
elle
ici comme...
un enseignement imposant.
Oui, oui. Et c'est vrai, je partage le point de vue de Madame Joséphine. Ici, chez nous, l'enfant est pris comme un entonnoir. Un entonnoir où on ne fait que verser de la matière, alors que l'enfant devait être pris comme un feu à allumer. C'est-à-dire l'enfant devait a les atouts, il a des potentialités, il peut s'efforcer à apprendre par lui-même. Mmh. Mais pour ce faire, il faudrait que l'enseignant qui donne la matière soit formé de manière à ce qu'il ne soit pas seulement formateur, mais qu'il soit facilitateur.
D'accord, on va revenir à tout à l'heure à d'autres intervenants. Il est temps d'accueillir Rabbi Lunga de Manono. Bonjour Rabbi.
C'est Rabbi Lunga de Manono. Bonjour Jody, bon retour à l'antenne.
Merci Rabbi, quelle est votre question?
Okay. J'ai une petite question à poser à notre invité.
Oui.
Est-ce qu'un enfant qui a échoué les deux premiers trimestres, supposons premier trimestre avec 35%, deuxième trimestre, c'est 40%. Cet enfant-là peut avoir la chance de réussir à la fin de l'année en camp de mon encadrement à la maison
combien
à l'école.
Au premier trimestre, l'enfant a eu 35 et puis 40.
Sinon, s'il vous plaît, sinon, faut-il encore continuer à payer la scolarité tant que cet enfant-là est voué à l'échec à la fin de l'année? Comme l'éducation est sur les dos maintenant des parents, je dis et je vous remercie.
Voilà, l'enfant a fait 35% au premier trimestre et 40%. Hein, il y a eu une petite amélioration au deuxième trimestre. Alors, doit-il continuer à payer les frais?
Oui, il doit continuer à payer les frais. Moi, je trouve que c'est un bon enfant.
Il y a amélioration?
Oui, bien sûr. Je trouve que c'est un bon enfant parce que il a commencé avec 35. Il est passé de 35 à 40. En fait, c'est une amélioration. Pour moi, non. C'est très positif.
Bien que c'est toujours un échec.
C'est un échec, c'est vrai, mais c'est positif. Mais, c'est ce que j'ai dit au départ de cette émission, nous nous posons rarement la question de savoir quelle est ma part, moi en tant qu'enseignant, dans cet échec de l'élève.
Mais lui dit, en tant que parent, doit-il continuer à payer
il
les,
doit
les
payer,
prêts?
Il doit payer parce que, en tant que parent, il a l'obligation que l'enfant puisse apprendre. Et en tant que parent, il a aussi le devoir de pouvoir collaborer avec l'école, à travers son enseignant. Donc, le dialogue doit être permanent entre l'école et les familles. Cet enfant qui a 35 au premier trimestre et au second trimestre, moi je pense qu'il peut même surprendre et passer des classes, cet enfant. Il suffit que l'enseignant en soit conscient, il suffit que les parents en soient conscients, que l'enfant soit mis dans des conditions normales de travail, d'apprentissage, ça passe.
Il peut s'améliorer.
Il peut même passer des classes.
Alors, quelle est la part maintenant des parents et quelle est la part, vous avez parlé de la part des enseignants, quelle est maintenant la part des parents et de l'élève lui-même aussi?
Alors, la part des parents, c'est que nous, les parents, très souvent, n'ont pas le temps pour leurs enfants. Bizarrement, les parents font semblant d'aimer leurs enfants, mais ils n'ont en réalité pas trop de temps pour leurs enfants, surtout les papas. Nous, les papas, nous avons moins de temps pour nos enfants. Je peux faire prendre mon petit verre au coin jusqu'à un peu tard et ne pas voir qu'est-ce que mon enfant a comme devoir, comment je peux l'aider. Toute la charge, les papas, nous laissons la charge
aux
mamans qui, des fois, font ce qu'elles font, le peu qu'elles font. Mais l'enfant, c'est le fruit de papa et de la maman, cette union-là. Donc, il n'y a pas que la maman qui est là pour aider l'enfant. Tous deux, nous devons nous investir pour aider notre enfant, évidemment, dans la limite de notre temps possible. Et lorsqu'on va dans les réunions des parents, dans les écoles, faites un recensement sérieux. Dans ces réunions-là, même quand vous voyez beaucoup d'hommes, je sens les oncles de l'enfant, je sens le frère de l'enfant, je sens c'est ça. Très peu de papas biologiques, très peu de papas tuteurs vont se présenter aux réunions des parents parce que l'enfant a été convoqué, parce qu'il y a eu réunion des parents.
Souvent, les parents disent qu'ils n'ont pas le temps, ils doivent chercher l'argent pour nourrir ces enfants-là, alors ils préfèrent déléguer certaines personnes.
C'est là le problème. Même cette personne-là qui va représenter les parents à l'école ne pourra pas dire à l'école les réalités vécues par l'enfant. C'est un voisin, par exemple. Il pourra pas dire à quelle heure l'enfant dort. Il pourra pas dire avec qui l'enfant dort. Il pourra pas dire dans quelles conditions matérielles l'enfant vit à la maison. C'est tout ça le problème.
Alors, si l'enfant est échoué, il rentre à la maison, les parents sont très fâchés, certains tapent l'enfant ou on les prive de la nourriture. Tu vas pas manger aujourd'hui. Est-ce que ce sont des bonnes pratiques?
Je reprends en disant que l'échec n'a jamais été un souhait. Aucune personne sur cette terre désire échouer. Mais les échecs nous arrivent toujours. Et l'échec ne sera jamais une fatalité. Au contraire, si l'échec est bien exploité, ça peut être un très bon moyen pour décoller. Il suffit qu'on en prenne conscience. Mais ces parents qui viennent taper l'enfant à la fin de l'année parce qu'il a échoué, où est-ce qu'il était au début? En fait, demain se prépare déjà aujourd'hui. La fin de l'année se prépare déjà à la rentrée scolaire. Lorsque l'enfant n'est pas suivi pas à pas le long de l'année, ne vous attendez pas au miracle, s'il vous plaît, chers parents. Non, il n'y a pas de miracle à opérer. À moins que l'enfant soit naturellement intelligent, oui, mais et les parents et les enseignants, nous devons, dès le début, suivre pas à pas nos enfants.
Par exemple, si on décèle que l'enfant est faible en telle matière, qu'est-ce que le parent doit faire et qu'est-ce que l'enseignant doit faire pour l'aider à remonter la pente?
On décèle que l'enfant est faible en telle matière. Qui décèle? Si c'est l'enseignant, généralement, il parle avec le parent. Si c'est le parent, généralement, il parle aussi avec l'enseignant. Mmh. Les deux échangent. Et on peut même arriver à faire des propositions pour dire que on peut prendre pour cet enfant un
répétiteur,
un précepteur, par exemple. Ça peut passer, mais ça peut remonter la pente. Mmh. Mais je voudrais un peu revenir à ce que Madame Joséphine disait tout à l'heure là par rapport aux difficultés que rencontrent les élèves qui font que les élèves aient de mauvaises cotes. Je suis d'accord avec elle lorsqu'elle dit que l'enfant, on apprend à l'enfant.
C'est l'unité de mesure.
Oui. Mais le programme national prévoit tout ça. Le ministère a prévu que tout au début, que nous parlions des mesures naturelles, hein, qui sont les empans, qui sont les pas, qui sont tout ça, les coudes, le coudé, tout ça, et que les conventionnels viennent par la suite. Mais dans nos classes, aller jusqu'en sixième année primaire demander à un enfant, je dis mesure combien de kilomètres? Ok, ma réponse. 50 kilomètres, 20 kilomètres. Mais
combien
cet enfant, combien de kilomètres je dis?
Oui.
Il va vous dire 50 kilomètres. Mais cet enfant sur papier, dites-lui 1 kilomètre égale combien de mètres? Il vous dira 1000 mètres. Il calcule très bien, mais il ne comprend pas
c'est quoi la réalité. Oui.
Et tout ça, c'est des choses qui font que l'enfant ne puisse pas avoir de bonnes cotes scolaires. C'est ça. Donc, l'enseignant est resté trop livresque, alors qu'on doit l'enfant doit apprendre pour la vie et non pas pour l'école.
Bien, Otto Michel, nous vous disons merci. Nous rappelons que vous êtes expert consultant en éducation et coordonnateur de l'APE, qui est l'agence pour la promotion de l'enseignement. Merci et bonne journée.
Merci beaucoup, Jody.